Vous êtes sur RTL.
RTL Soir, Thomas Soto. Bonsoir Thomas.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous et bienvenue dans RTL Soir. À la une ce soir, la mort d'un pourri, Michel Fourniret, surnommé l'ogre des Ardennes. L'homme qui a reconnu avoir commis 11 meurtres, qui a été condamné pour 7 d'entre eux à 79 ans. Celui qui était donc surnommé l'ogre des Ardennes emporte avec lui une partie de ses secrets, notamment ce qui concerne la disparition d'Estelle Mouzin et laisse beaucoup de familles avec leurs questions sans réponse. Estelle Mouzin, c'était bien sûr cette petite fille disparue en 2003. Bonsoir Vernuccio.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
C'est bien sûr le premier titre de l'actualité de ce lundi 10 mai. Pour les autres, on voit ça avec vous.
4 jours après le meurtre d'un policier à Avignon, 4 suspects, dont le tireur présumé interpellé. La campagne de vaccination passe à la vitesse supérieure avec les plus de 50 ans prioritaires. Et puis quand des prêtres allemands défient le Vatican, ils ont béni des couples homosexuels.
Lundi 10 mai 2021, dimanche 10 mai 1980. Il y a 40 ans, François Mitterrand remportait l'élection présidentielle. À 18h15, Robert Badinter sera l'invité exceptionnel d'RTL Soir. L'ancien garde des Sceaux, l'homme qui a aboli la peine de mort, a accepté de se confier longuement, notamment sur la relation polémique qu'a entretenue l'ancien président avec René Bousquet. Rendez-vous donc à 18h15. La météo Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Demain, sur l'Est, ça va pas être la fête.
Et non, parce qu'encore beaucoup de pluie, des orages, de la neige, des 2000 mètres sur les Alpes, 1200 mètres sur les Pyrénées. Donc demain matin, un temps pluvieux, surtout entre la Corse, la Provence, l'Alsace et entre les Pyrénées et le centre. Dans l'après-midi, les pluies concerneront toute la moitié Est avec des orages. Le golfe du Lion sera à l'écart, mais avec beaucoup de vent. Et puis la moitié ouest, entre nuages, éclaircies, quelques averses et un vent généralisé sur l'ensemble du pays. Le tout sous des températures en baisse, comprises entre 14 et 20 degrés.
Merci Peggy.
RTL Soir.
Michel Fourniret ne sera pas jugé pour ses crimes. Le tueur des Ardennes s'est éteint sur son lit d'hôpital à l'âge de 79 ans. Condamné pour 7 meurtres, mis en examen dans 4 autres dossiers. Et il emporte aujourd'hui avec lui tous ses secrets, Alice Moreno.
Et qu'a-t-il infligé exactement à Johanna Parrish, 20 ans, dont le cadavre a été découvert dans une rivière dans les années 90? Où a-t-il caché le corps de Marie-Angèle Domès, disparue à l'âge de 18 ans, et celui de Lydie Loge? Et enfin, où a-t-il dissimulé le corps de la petite Estelle Mouzin? Dans tous ces dossiers, Michel Fourniret a été mis en examen, mais les procès se tiendront sans lui. Monique Olivier, l'ex-femme et complice du tueur, sera seule dans le box. Des fouilles étaient encore en cours il y a une dizaine de jours dans les Ardennes pour tenter de retrouver une trace d'Estelle Mouzin, sans doute enterrée là par Michel Fourniret, en vain. L'avocat d'Éric Mouzin, Didier Seban, pointe l'incapacité de la justice française à enquêter sur les tueurs en série.
L'essentiel, c'est qu'on puisse donner des réponses aux familles. Monique Olivier, qui a participé à toutes les affaires, Michel Fourniret, est encore en vie et vaillante. Il faut donc accélérer encore l'enquête. Cette mort vient renforcer l'exigence de vérité.
Les enquêteurs travaillent par ailleurs sur 21 cold cases dans lesquels Michel Fourniret pourrait être impliqué. Des ADN retrouvés sur un matelas appartenant au tueur et dans sa camionnette sont en cours d'analyse et pourraient livrer une partie des secrets que l'ogre des Ardennes emporte dans sa tombe.
Alice Moreno du service police-justice d'RTL. Il aura fallu 4 jours de traque pour que le tireur présumé, le tueur d'Avignon, soit interpellé.
Il est soupçonné d'avoir tué par balle un policier sur un point de deal. L'homme se dirigeait vers l'Espagne avec 2 complices avant d'être repéré au péage de Rémoulins. Le procureur vient de donner une conférence de presse avec quelques précisions, Frédéric Perruche.
Oui, même si le procureur d'Avignon, Philippe Guémas, est resté très prudent dans ses déclarations, précisant simplement que 4 personnes étaient en garde à vue, le tireur et son complice présumé, âgé de 19 et 20 ans, connus des services de police pour plusieurs délits pendant leur minorité notamment. Ils ont été plusieurs fois condamnés pour violence et trafic ou détention de stupéfiants. Ils ont été interpellés hier soir par la BRI après avoir été identifiés vendredi. La sœur du tueur présumé est elle aussi en garde à vue, tout comme un homme de 50 ans qui conduisait leur véhicule hier soir et dont le rôle reste à préciser. 2 juges ont été saisis et une information judiciaire a été ouverte pour homicide volontaire sur fonctionnaire de la police nationale. Pour l'instant, les gardes à vue n'ont rien apporté de nouveau aux enquêteurs. Le principal suspect nie formellement les faits selon son avocat. Le soir du meurtre, il serait resté chez lui en famille, en périphérie d'Avignon. Il assure également qu'il ne s'enfuyait pas vers l'Espagne mais partait en direction de Perpignan pour une raison inconnue et qu'il ne veut pas payer pour un autre. Reste que les policiers ont évidemment des éléments matériels pour incriminer les 2 jeunes. Les perquisitions pourraient également apporter d'autres informations aux enquêteurs susceptibles de faire évoluer leur première déclaration en garde à vue. Garde à vue qui peuvent se poursuivre jusqu'à demain soir, 22h30.
Frédéric Perruche en direct d'Avignon sur RTL. Des interpellations qui soulagent les collègues d'Éric Masson. Les syndicats réclament désormais une réaction du gouvernement pour éviter d'autres drames. Claude Simonet, métier, secrétaire d'unité police SGP FO dans le Vaucluse.
Un soulagement, c'est le premier mot. Après, il y a tout un mélange de sentiments indescriptibles, j'allais dire, par rapport à la situation. Je pense surtout à la famille d'Éric, ainsi qu'à ses collègues du GDI, puisque c'est aussi une grande famille dans la police. Beaucoup d'hommes ont été là-dessus, à savoir à peu près 80 personnes. Mais pour la suite, j'attends clairement une réponse de la justice quand le dossier leur sera proposé et amené. Il y a une réponse également du gouvernement pour la suite, puisqu'il ne faut plus jamais d'Éric. Et il faut qu'on arrête ce genre de choses. On est policiers au service de la population, on n'est pas des policiers pour se faire tuer.
Propos d'un syndicaliste policier recueilli par Samia Belbachir. Un hommage national doit être rendu à Éric Masson demain après-midi à Avignon. Le Premier ministre Jean Castex y assistera. Également présent, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui sera un peu avant, demain matin à 7h40, l'invité d'Alba Ventura dans la matinale d'RTL.
La situation sanitaire à présent et ce coup d'accélérateur dans les centres de vaccination. Depuis ce matin, si vous avez plus de 50 ans, vous êtes prioritaire. Un public bien souvent salarié et les créneaux en entre midi et deux sont très recherchés. Nerissa Emani, vous vous êtes rendue au vaccinodrome de Nanterre.
Oui, à la sortie du centre de vaccination, Jean-François a le sourire. Ce commercial en télétravail est venu se faire vacciner sur sa pause déjeuner.
J'ai 50 ans. Dès que j'ai pu, je me suis inscrit. J'ai trouvé un créneau 12h10. Si je n'avais pas été en télétravail, ça ne posait aucun souci.
Juste derrière, Olivier photographie fièrement son justificatif de vaccination pour l'envoyer à ses proches.
Je vais vers les 51 ans, donc je suis dans la tranche d'âge. On s'est précipité sur Doctolib pour pouvoir se faire vacciner. Content de l'avoir fait. Mais en tout cas, avec l'espoir d'un jour pouvoir enlever les masques et retrouver une vie normale.
Peu importe le vaccin.
Ah, j'ai même pas regardé.
Marie, au contraire, s'est bien renseignée avant de venir.
J'attendais vite qu'on ouvre le Pfizer au plus de 50 ans. Plus on est vacciné, je crois mieux c'est pour l'ensemble de la population. Et ça serait bien que ça soit ouvert à tout le monde. Et ceux qui veulent vraiment se faire vacciner et qu'il n'y ait pas, comme certains endroits, plein de doses qui ne sont pas utilisées.
D'ailleurs, des personnes de moins de 50 ans sans comorbidité ont tenté leur chance dans ce centre aujourd'hui, même s'ils ne restent respectez pas les critères, ils ont pu se faire vacciner.
Nerissa Emani à Nanterre pour RTL. Et attention, dès mercredi, les règles vont changer. Tous les Français de plus de 18 ans pourront prendre rendez-vous le soir même pour le lendemain, quand il restera des doses et des créneaux vacants. Ça se passe notamment sur les sites comme Doctolib.
À 9 jours de la phase 2 du déconfinement, le gouvernement se dit favorable à l'ouverture des magasins le dimanche en juin pour faciliter la reprise et permettre au commerce de rattraper la baisse de chiffre d'affaires. La ministre du Travail demande au préfet d'organiser localement des concertations. Les salariés devront être volontaires. Et puis les derniers chiffres de Santé publique France, 4971 personnes en réanimation et 116 décès ces dernières 24 heures, tendance toujours à la baisse.
18h08, une bataille de gagner pour les salariés de la fonderie de Bretagne.
Ils étaient 150 manifestants devant la sous-préfecture depuis 6 heures ce matin pour empêcher la tenue d'un CSE. Ils devaient entériner la recherche d'un repreneur pour le site de Codan. Maël Le Goff est secrétaire général de la CGT de la fonderie de Bretagne et il a annoncé la nouvelle à ses collègues.
Les conditions n'étant pas réunies, le CSE extra ne se tiendra pas. Donc déjà, c'est un premier recul. Est-ce qu'il y aura une reconvocation? J'imagine que oui. Mais maintenant, il y a aussi un acteur qui s'appelle l'État, qui a des responsabilités. Ça fait déjà 2 semaines qu'on est sur le parking, comme des chiens, que tout le monde s'en fout et que ça ne peut pas continuer. Parce qu'on commence à être fatigué. Au-delà de ça, il y a la détermination. Et après, il y a l'énervement. Donc pour l'instant, on est gentil, c'est le message qu'on passe. Mais il faut que l'État prenne ses responsabilités le plus vite possible et qu'on retrouve des solutions. Et la solution passe par une seule chose, c'est rester dans le groupe Renault, avoir les volumes, pouvoir travailler et être tranquille, qu'on nous foute la paix. Voilà.
Ouais. Propos recueillis par Patrice Gabart pour RTL.
Petite pause, dans un instant, 40 ans après l'élection de François Mitterrand, on va se demander où est passée la gauche.
RTL Soir. RTL Soir, Thomas Soto.
Il est 18h12, suite du journal avec vous, Aude Vernuccio. C'était donc un 10 mai, le 10 mai 1981, ça fait 40 ans, la France passait au rose.
François Mitterrand est élu président à près de 52% des voix face à Valéry Giscard d'Estaing. Fête dans les rues de France, 40 ans plus tard, le PS est à la peine. Les jeunes militants savent que le retour au pouvoir prendra peut-être du temps, comme Théo, 22 ans, lui ne jure que par le socialisme.
Le PS plus que jamais, parce que je reste persuadé aujourd'hui que c'est le seul parti de gauche qui puisse à la fois rassembler et qui puisse porter des valeurs de gouvernement, des valeurs qui puissent être matérialisées dans les faits par des mesures, des grandes mesures. Et en fait, c'est tout ce que fait Joe Biden, c'est la fiscalité plus importante pour les riches, c'est des plans d'investissement massifs dans la jeunesse, dans les politiques de la ville, évidemment dans l'éducation, parce que c'est l'éducation qui fait le tout. Et ça, ça passe, j'en suis persuadé, par le PS et par la gauche d'une manière générale. Encore faut-il maintenant qu'elles s'unissent, et ça, c'est une autre histoire.
Propos recueilli.
Tout est dans la dernière phrase.
Propos recueillis par Marie-Bénédicte Allaire pour RTL. Moins de trois semaines après, un texte controversé, nouvelle tribune de militaires publiée hier soir sur le site de Valeurs Actuelles. Cette fois sous couvert d'anonymat, les auteurs seraient des soldats au service. Ils appellent à un sursaut, estiment que la guerre civile couve en France, je cite. Pas de commentaire du côté du gouvernement, William Galibert. Cette fois, on joue l'indifférence.
Oui, réaction vraiment à minima, et tout ça a été réfléchi. La première fois, il y avait des menaces de sédition, de putsch, clairement formulé. On ne pouvait pas laisser passer, explique un ministre, mais là, ça sent trop le réchauffer. C'est un texte anonyme, dénonce un autre député de la majorité. On ne doit lui prêter aucun intérêt. Pas de signature, pas de texte. Passons à autre chose, ajoute un élu qui lui aussi feint l'indifférence. En fait, la majorité veut surtout s'éviter une nouvelle semaine de polémiques et de débats sur la violence et sur l'état du pays. La majorité qui accuse aussi le Rassemblement National de faire de la récup. Emmanuel Macron, lui, s'est affiché samedi pour les cérémonies du 8 mai en grande discussion avec tous ses chefs d'état-major. Dans un petit conciliabule filmé au pied de l'Arc de Triomphe, et il considère que pour l'instant, cette image est une réponse suffisante à ceux qui tenteraient de contester son autorité de président de la République et de chef des armées.
William Galibert du service politique d'RTL. L'actualité à l'étranger, pardon. Nouvelle journée de tension en Israël. Des roquettes ont été tirées il y a quelques minutes encore depuis la bande de Gaza. Les sirènes ont retenti à Jérusalem et le mur des lamentations a été évacué.
Depuis vendredi soir, la vieille ville est le théâtre d'affrontements entre policiers israéliens et fidèles palestiniens à Jérusalem. Sur l'esplanade des mosquées, on compte plus de 300 blessés en un week-end.
En Allemagne, à présent, ce sont des prêtres qui défient le Vatican.
La scène est à peine croyable. Imaginez une centaine de prêtres catholiques qui bénissent des couples homosexuels. Une campagne appelée « Pour que l'amour l'emporte ». Le Vatican avait publié une note à la mi-mars réaffirmant ses principes contre l'homosexualité. Notre correspondante Delphine Nerbollier s'est entretenue avec un couple béni à Trèves.
Edgar et Oleg sont en couple depuis 15 ans. Ce week-end, ils ont pour la première fois de leur vie été bénis par un prêtre catholique. Cela s'est passé à Trèves, dans l'église du Sacré-Cœur, un moment intense pour ce couple homosexuel.
Je me suis senti reconnu d'une certaine manière. Cela m'a fait du bien. Pour la première fois, main dans la main à l'église.
D'habitude, on est gêné, on se cache même.
À l'image d'Edgar et Oleg, ce week-end, les personnes et couples homosexuels ont pu recevoir la bénédiction d'une centaine de prêtres catholiques allemands. Cette action, par son ampleur, est une première en son genre et se veut une réponse au Vatican. Celui-ci a publié en mars une note interdisant de manière officielle la bénédiction des couples homosexuels. Dans la foulée, plus de 4000 agents pastoraux avaient signé une pétition pour protester. Si ce week-end, une centaine de prêtres ont béni des couples de même sexe, il reste toutefois une minorité en Allemagne, mais une minorité qui souhaite faire bouger les choses.
Delphine Nerbollier, correspondante d'RTL en Allemagne.
Comment on dit bonne nouvelle en Allemagne? La neue gute,
la bonne nouvelle. Gute nouvelle.
Voilà.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
À 9 jours de l'ouverture des terrasses, Thomas, les brasseries tournent à plein régime. Il faut dire que la demande risque d'être un peu forte. Après 6 mois sans demi au comptoir, avec modération, bien sûr, à Schiltigheim, berceau de la bière en France, à la brasserie L'Espérance, sous pavillon d'Heineken, pas une minute à perdre, Yannick Collant.
La bière coule à nouveau à flot sur les lignes de production. Redémarrage à fond pour Stéphane Crépel, le directeur de la brasserie.
Trois lignes de production en bouteille qui tournent à 60 000, 40 000 et 40 000 bouteilles par heure. On s'organise de manière à pouvoir mettre en stock le maximum de volume. On est à 100% de notre capacité de production.
Et c'est un vrai soulagement quand on jette un coup d'œil à l'arrière de la brasserie. Les conséquences du confinement sont là. Des montagnes de fûts vides à perte de vue. Normalement, ils sont tous remplis de bière chez les cafetiers et les restaurateurs.
Là, c'est l'entièreté de stockage de fûts vides. Vous voyez ces conséquences, 6-7 hectares de stockage de fûts vides.
Et ce sont ces fûts qui sont donc à nouveau remplis de bière fraîche et chargés sur les poids lourds qui se succèdent à l'avant de la brasserie.
Vous voyez, on charge 24 palettes complètes, 700-800 fûts sur un seul camion. Sur une semaine type de cette semaine-ci, on est à peu près sur 50 camions et on a des réserves de chargement.
Les brasseurs français sont confiants. Vu leur stock, il n'y a aucun risque de pénurie à l'ouverture des terrasses.
Yannick Collant en Alsace pour
RTL. J'ai consulté mon expert privé, Google Trad. Gute Nachrichten. Eine gute Nachrichten. Une
et
bonne
y a
nouvelle.
Vol, yeah. Thomas Soto.
With moderation. Hein,
parce tout que, à fait.
Merci beaucoup.
Dénada.
À tout à l'heure. Ancien avocat, ancien garde des Sceaux, incarnation de l'abolition de la peine de mort, ancien président du Conseil constitutionnel et ami de François Mitterrand. Dans un instant, c'est donc Robert Badinter qui est l'invité exceptionnel d'RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto. RTL Soir, Thomas Soto.
Il a été, entre autres, le garde des Sceaux emblématique des années Mitterrand. Il restera dans l'histoire comme l'homme qui a fait voter la suppression de la peine de mort en France. Il vient de publier Théâtre 1, un recueil de trois de ses pièces chez Fayard. Robert Badinter est l'invité exceptionnel d'RTL Soir. Bonsoir et bienvenue à vous, Robert Badinter.
Merci de m'accueillir.
Nous sommes le 10 mai 2021, il y a 40 ans, presque heure pour heure, François Mitterrand apprenait qu'il avait gagné, qu'il avait remporté l'élection présidentielle. Tous ceux qui ont vécu cette journée, Robert Badinter, se souviennent de la pluie qui tombait très fort le soir à Paris notamment. Mais vous, est-ce que vous vous souvenez de la façon dont vous avez vécu cette journée ?
Dans la cuisine, il devait être 6h, 5h30 du soir, avec Régis Debray, nous pelions des patates. Pour la salade que nous espérions de la victoire, avec quelques amis qui devaient venir. Et puis, coup de téléphone arrivé, et c'était Charles Salzman qui s'occupait des sondages dans l'équipe de Mitterrand, proche ami, et qui a dit, ça y est, c'est gagné, c'est fini. Tu es sûr ? J'en suis sûr. Allez, salut. Alors, Régis et moi sommes tombés dans les bras l'un de l'autre, et puis on a achevé la salade de patates. Et puis, Mitterrand a téléphoné. Je passerai. Bien entendu, il va passer. Il avait autre chose à faire que de passer pour boire un verre avec des amis.
Vous vous souvenez, Robert Badinter, forcément de ce moment où le visage de François Mitterrand apparaît sur le poste de télévision. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là ? Vous dites, c'est exaltant, c'est enthousiasmant, c'est vertigineux, c'est angoissant.
Rien de tout ça. J'étais hanté, possédé par l'histoire, et je me souvenais du mot d'un proche compagnon de Léon Blum, apprenant la victoire du Front Populaire, et disant « Maintenant, les ennuis commencent ».
Vous incarnez, vous, Robert Badinter, plus que personne, le visage du ministre de la Justice de François Mitterrand. Et pourtant, vous n'êtes pas dans le premier gouvernement. C'est Maurice Faure qui est nommé garde des Sceaux. Pourquoi vous n'êtes pas dans le premier gouvernement de Pierre Mauroy ? Comment ça se fait ?
Moi, j'avais réfléchi. Je savais. Je savais. J'avais pris ma décision. Oui, j'accepterai le portefeuille de la justice. Aucun autre. Ça ne m'intéressait pas d'être ministre. Quand il me dit alors, est-ce que ça vous intéresserait de rentrer au gouvernement ? Je lui dis oui à la justice. Il m'a dit non. Je l'ai donné à Maurice Faure. J'ai très bon choix qui rassurera la magistrature.
Sur le moment, vous étiez déçu ou pas, Robert Badinter ?
Non, pas très déçu. Pas déçu. Il y avait évidemment la question majeure de l'abolition. Mais l'abolition, elle était acquise. Elle était acquise depuis le moment où Mitterrand, avec beaucoup de courage, avait dit que lui était contre la peine de mort. Alors oui, je souhaitais, au fond de moi-même, être celui qui aurait comme ça, enterré la peine de mort en France, mais l'essentiel, c'était pour moi qu'elle disparaisse.
Ce sujet de la peine de mort, c'était un sujet qui a été très discret pendant la campagne présidentielle. On a l'impression que c'était un peu... Vous ne le portiez pas en étendard, tout. C'était... C'est dans le programme, oui, mais n'en parlons pas trop, ne faisons pas de bruit là-dessus.
C'était un sujet impopulaire, indiscutablement. Ça allait rester très longtemps. Moi, j'étais, alors, de très loin, le ministre le plus impopulaire du gouvernement.
Vous avez été détesté, Robert Badinter. Est-ce que ça a été dur à vivre ?
Ah, mais je l'étais avant. Je peux vous le dire, la décennie 71-81 a été très difficile, et pas seulement pour moi, pour Elisabeth, pour les enfants. J'ai été haï, et surtout depuis l'affaire Patrick Henry. Il a fallu que je retire mes enfants. Un fou a allumé un incendie, mis une bombe incendiaire sur le paillasson de l'entrée.
Mais vous n'avez jamais vacillé.
Jamais. Non, mais c'était une conviction absolue. Absolue. Je ne voulais plus. Je ne voulais plus voir un homme coupé en deux vivant dans la cour de la santé. Et cet homme n'avait pas tué. J'avais vu la justice tuer un homme qui n'avait pas tué. Après cela, comment est-ce que vous voulez que je ne combatte pas ?
On évoque la haine dont vous avez été victime. La haine, elle n'a pas disparu de la société aujourd'hui, en 2021. On voit aujourd'hui, en 2021, des manifestants qui hurlent « Suicidez-vous !» quand ils se trouvent face à des forces de l'ordre, face à des policiers. Comment vous vivez cela ? Comment vous ressentez cela ? Comment vous regardez cela ?
Je trouve ça très injuste. Les braillards se font entendre. L'immense majorité silencieuse a avec la police des rapports qui sont des rapports aisés. Il faut prendre conscience. Et du côté des policiers, que la légalité doit être respectée, qu'ils sont les gardiens, les défenseurs, les premiers de la loi. C'est pourquoi je parle de leur conscience républicaine. Et du côté du public, que ça n'est pas du tout, comme dans des États totalitaires, l'expression de la force brutale, non. Non, ce n'est pas ainsi que se trouve la police française dans la démocratie qui est la nôtre.
François Mitterrand avait beaucoup misé sur la jeunesse, Robert Badinter. Aujourd'hui, la jeunesse, elle se sent sacrifiée, elle se sent sans horizon, elle se sent sans vie sociale. Quel message vous avez envie de faire passer aux jeunes de 2021 ?
Toute jeunesse estime que par rapport à ses devanciers, elle se trouve dans un état morosité, d'absence d'opportunité. Bon, c'est vrai qu'il y a des moments plus heureux. Mais communément, ces moments plus heureux dans l'histoire, vous les trouverez après de très grandes épreuves. Pour être précis, le monde de demain, celui qui nous attend, sera difficile. La pandémie aura changé le rapport des êtres les uns aux autres. On va vers un avenir difficile. Raison de plus pour construire cet avenir sur la base des valeurs qui, elles, ne sont pas d'un instant, mais qui sont au cœur même de notre civilisation.
Les valeurs. Robert Badinter, est-ce que vous êtes un homme de gauche ?
Écoutez, je vous dirais que avec une certaine dose d'ironie, quand je suis arrivé au gouvernement, le deuxième de François Mitterrand, j'avais le sentiment que j'étais, sinon plus à droite, disons, le moins à gauche de l'ensemble de l'équipe. Puis les années ont passé et j'ai eu le sentiment que j'étais le plus à gauche de l'ensemble de l'équipe.
Il était de gauche, Mitterrand ?
Je le pense. Je le pense.
Vous n'en avez pas la certitude, vous le pensez.
Il était de gauche par sa sensibilité, ses convictions, son humanité, son souci qui n'était pas fin de faire en sorte que la condition des plus fragiles dans la société soit améliorée. Il rêvait vraiment d'un monde plus juste.
C'est vrai qu'il vous faisait penser à Louis XIV ?
Moi, j'ai toujours été frappé de voir à quel point les visages se sculptent. Je ne dis pas se durcissent, mais les traits du visage s'accentuent très vite chez tous ceux qui exercent le pouvoir. Et à mesure que je le regardais, que je voyais ce visage se tondre dans les attaques si basses dont il a été l'objet, je me disais, Mitterrand, à qui ressemble-t-il ? Et de profil, en l'imaginant avec une perruque, c'était en effet Louis XIV.
Il était très rusé politiquement. Beaucoup l'ont accusé de jouer avec Jean-Marie Le Pen, de pousser l'extrême droite pour contrer à l'époque le RPR de Chirac. Il a joué avec le feu sur ces questions-là ?
Non, non. C'est une accusation absurde.
Et est-ce qu'aujourd'hui vous diriez qu'Emmanuel Macron fait avec Marine Le Pen la même chose que ce que François Mitterrand a fait avec Jean-Marie Le Pen ?
Vous savez, dans ma si lointaine jeunesse, on jouait comme ça au portrait comparé, comparé Jules César et Napoléon. Non, je ne joue pas à ces jeux-là.
Il a aussi eu ses parts d'ombre, François Mitterrand, la Francisque, la décoration du régime vichiste, son amitié jamais démentie avec René Bousquet, y compris après 1978, quand Darquier de Pellepoix, qui fut commissaire général aux questions juives entre 1942 et 1944, dénonce son rôle dans la rafle du Veldiv. On ne va pas refaire l'histoire une énième fois, Robert Badinter, mais au fond de vous, est-ce que vous lui en avez voulu ?
Avant toute chose, je tiens à redire l'histoire, parce que je sais à quel point elle a été délibérément construite contre Mitterrand. J'ai devant moi un papier que je vais vous remettre. Regardez-le bien, c'est le Figaro du 24 août 44, le jour de libération. Regardez le gouvernement provisoire qui entoure le général de Gaulle. Qui représente le gouvernement de la résistance. Eh bien, vous avez le dernier mentionné, François Mitterrand. Vous ne pensez tout de même pas que le 24 août 44, le général de Gaulle et les mouvements de résistance auraient ratifié la nomination du jeune Mitterrand, car il était tout jeune à l'époque, s'il n'avait pas donné toutes les preuves de son action dans la résistance. Mais chez les gaullistes, qui était haut fonctionnaire? Pas quand Mitterrand, un petit contractuel à Vichy, aux prisonniers de guerre, après s'être évadé. Qui était conseiller d'État? Michel Debray. Personne ne peut discuter la qualité de résistant de Michel Debray. Jacques Chaban-Delmas, qui a joué un si grand rôle dans la libération de Paris, indiscutable et très grand résistant. Il était où? Il était inspecteur des finances. Les conseillers d'État et les inspecteurs des finances prêtaient serment au maréchal Pétain. Nulle part, vous n'étiez mieux à même de jouer un rôle dans la résistance que quand vous étiez ainsi sous l'étiquette d'un corps de l'État ou d'un poste officiel. Alors, en ce qui concerne Bousquet, je vais être très clair. Moi qui vous parle, je n'ai de ma vie rencontré M. Bousquet. Mais j'ai rencontré le mystère, le seul, le grand judiciaire de l'affaire Bousquet, qui m'a toujours interrogé. Pourquoi? Parce que M. Bousquet, parce que René Bousquet, il a été jugé, il a été arrêté en Allemagne, il arrive à Paris en avion. Tout de suite, il est mené chez le juge d'instruction. Bousquet est assis entre deux gendarmes, passe un collaborateur. Ah, toi aussi, ils t'ont arrêté? Et Bousquet dit, mais ne te fais pas de soucis, ça se passera très bien. 2 ans après, Bousquet est mis en liberté. 1 an après, il est jugé. Mais par qui? Par des ennemis politiques. Il sort comment, Bousquet, de cette juridiction d'exception? Il est acquitté du chef d'intelligence avec l'ennemi. Collaboration? Non. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-dedans? Scandale judiciaire, l'affaire Bousquet. Non seulement il est acquitté de collaboration, même on l'avait vu en photo avec les hommes de la Gestapo, hein, mais en plus, cette cour de justice composant de parlementaires résistants, elle le relève de l'indignité nationale pour service rendu à la résistance. C'est-à-dire que Bousquet est le seul, à ma connaissance, à être sorti de la cour de justice composée de parlementaires résistants, non seulement acquitté, mais avec un brevet de résistance. Après ça, il pouvait se pavaner dans Paris. La Légion d'honneur, on la lui a rendue, tout ceci m'a laissé toujours plus que pensif. Plus que pensif. Pourquoi est-ce qu'on a acquitté Bousquet? Pourquoi? Qui? Certainement pas Mitterrand, je peux vous le dire. J'ai pris le soin de vérifier auprès d'amis proches de Mitterrand de l'époque. Jamais ils se sont connus.
Vous lui en avez voulu de cette amitié durable? Cette amitié qui a duré jusqu'au bout avec Bousquet à Mitterrand?
Mais je pourrais vous citer... Je ne le ferai pas. Mais Bousquet, sortant de la Haute Cour, avec un certificat de résistance délivré par la Haute Cour, il était un notable. Il a refait carrière, Bousquet. On l'a revu dans les conseils d'administration. Il a joué un rôle pas important Mais quand même...
Mais vous, vous saviez qu'il s'en était bien sorti.
Mais moi, je ne savais rien. Je tiens à le dire. J'en ai assez de entendre parler de Bousquet. Je vous l'ai dit, je n'ai jamais vu Bousquet de ma vie. Et le seul rapport que j'ai jamais eu avec Bousquet, c'est en découvrant qu'il avait signé l'ordre d'arrestation de ma grand-mère, apatride, le jour de 1942, de Kippour 42. C'est le seul rapport que j'aurais eu jamais avec Bousquet. Alors, on dit, ah, mais Mitterrand... J'ai répondu très clairement, Mitterrand ne connaissait pas Bousquet, il ne se fréquentait pas. Bousquet était un personnage considérable, Mitterrand un petit fonctionnaire contractuel, ce n'était pas le même rang. Donc ce n'est pas en prison que Mitterrand est allé voir Bousquet. Donc il a connu Bousquet, Bousquet brandissant cet arrêt de la cour, de la haute cour, disant voilà... Vous voyez, je suis un résistant. La Cour, la Haute Cour de justice, l'a jugé. J'ai beaucoup travaillé sur l'affaire Bousquet. Je voulais savoir, car c'est un déni honteux de justice qui s'est passé. Mais les dossiers administratifs sont vides. Ça reste un des grands mystères. Alors, en ce qui concerne Mitterrand et les liens de Mitterrand avec Bousquet, Bousquet était lié avec beaucoup d'autres. Bousquet était reçu dans les tables de notables. Bon, Bousquet, finalement, sa façade s'est effondrée quand Darquet de Pellepoix, qui le haïssait, a donné cette interview à Jacques de Rogy. Mais il a fallu attendre jusque-là.
En expliquant que Bousquet était commissaire général aux questions juives entre 1942 et 1944, c'est ce que dit Darquet de Pellepoix.
Mais oui, mais absolument.
Mais ça, Mitterrand le sait, à ce moment-là, en 1978.
Mais je ne comprends pas. C'était notoire. Mais c'était notoire.
Mais cette amitié Bousquet-Mitterrand ne vous a pas perturbé ?
Mais je le répète encore une fois, il ne s'agit pas de moi, de mes sentiments personnels, de mes rapports ou de mes explications avec Mitterrand qui ne regardait que nous deux. Je dis simplement que la campagne conduite qui ferait de Mitterrand l'appui constant de Bousquet, elle est mensongère. Ils ne se sont pas connus à Vichy. C'est après. Et après, M. Bousquet se promène dans Paris avec l'acquittement et les brevets de résistance et le Conseil d'État et la Légion d'honneur. Alors que Mitterrand, je l'ai constaté, qu'il en était beaucoup, beaucoup affecté. Je l'ai mesuré. Que s'agissant, je dirais, de là, de ces rapports ultérieurs, ça n'a pas été sans passer inaperçu. Et pour la raison personnelle que j'évoquais tout à l'heure, nous en avons parlé. Mais ça n'a pas été le moment le plus heureux de nos relations.
J'ai une dernière question, Robert Badinter. Je crois aux forces de l'esprit, disait François Mitterrand. Et vous, Robert Badinter ?
Ah ben, ça ne vous regarde pas. Pardonnez-moi. Moi, j'ai été très étonné du propos de Mitterrand. Mais en ce qui me concerne, ça ne regarde personne. Sauf peut-être Elisabeth, mais en dehors de ça, ça ne regarde personne.
Pourquoi avez-vous été étonné par ces mots-là dans la bouche de François Mitterrand ?
Ben, toute la France a été étonnée. Moi, comme les autres. Parce que c'est un homme secret.
Vous l'avez connu, François Mitterrand ? Vous avez le sentiment...
Ah, je l'ai très bien connu. Enfin, très bien. Est-ce qu'on peut connaître très bien François Mitterrand quand... comme Georges Daillon, on n'a pas vécu 50 ans avec lui, à ses côtés, tout le temps. Oui, je l'ai connu, oui, je l'ai bien connu. Et je dis très franchement, c'est un des êtres humains dont la compagnie m'a été le plus agréable. J'ai beaucoup ri avec Mitterrand, beaucoup ri. Et ce qui est rare en politique, j'ai toujours considéré que c'était un ami. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas des dissentiments, des différends ou des explications. Mais c'est ça aussi l'amitié.
Merci infiniment Robert Badinter d'avoir accepté l'invitation d'RTL Soir. Vous écouter est un plaisir. On peut aussi vous lire notamment dans ce Théâtre 1 que vous venez de publier chez Fayard. Merci beaucoup Robert Badinter.
Merci.
entretien à enregistrer ce matin et à retrouver en version longue et en vidéo sur notre site rtl.fr. À suivre, l'œil de Natacha Polony, 40 ans après cette victoire de François Mitterrand. La directrice de Marianne est au chevet de la gauche ce soir et autant vous dire que le patient ne va pas fort.
RTL Soir. RTL Soir avec Thomas Soto.
Le rappel des titres avec vous, Audvernuccio.
Michel Fourniret emporte avec lui tous ses secrets. Celui qu'on surnomme l'ogre des Ardennes est mort aujourd'hui sur son lit d'hôpital à 79 ans. Condamné pour 7 meurtres et mis en examen dans 4 autres dossiers, dont l'affaire Estelle Mouzin, la fillette disparue en 2003. 4 jours après le meurtre d'un policier sur un point de deal à Avignon, 4 hommes, dont le tireur présumé interpellé au péage de Remoulin. L'homme se dirigeait vers l'Espagne avec 2 complices avant d'être repéré. La sœur d'un des suspects a également été interpellé. La campagne de vaccination anti-Covid qui s'accélère avec les plus de 50 ans prioritaires depuis ce matin. Mercredi, tous les Français de plus de 18 ans pourront prendre rendez-vous pour le soir même ou le lendemain quand il restera des créneaux et des doses. À 9 jours de l'ouverture des musées et des terrasses, la décrue se poursuit à l'hôpital. 4971 personnes en réanimation, c'était 6000 il y a 2 semaines. Santé publique France déplore encore 116 décès liés au Covid en une seule journée. Le gouvernement favorable à l'ouverture des magasins le dimanche en juin pour faciliter la reprise des commerçants. Sur concertation locale avec les préfets et sur dérogation, la ministre du Travail rappelle que les salariés devront être volontaires. La tension monte entre Israël et les Palestiniens. Des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza en début de soirée. Le mur des Lamentations à Jérusalem a été évacué après 3 jours de heurts entre police et fidèles palestiniens sur l'esplanade des mosquées. On compte 300 blessés.
Merci beaucoup Aude, nous sommes lundi et le lundi c'est Polony, l'œil de Natacha Polony, la directrice de Marianne avec nous ce soir. Bonsoir Natacha.
Bonsoir.
Alors on évoquait à l'instant l'anniversaire du 10 mai 1981 avec Robert Badinter. J'imagine que vous n'avez pas complètement les mêmes souvenirs que lui, alors ça vous évoque quoi à vous le 10 mai?
Évidemment, ce serait un peu facile d'ironiser sur ce qu'est cet anniversaire aujourd'hui. Vous les avez vus hier. Il y avait d'un côté ceux qui commémoraient au Creusot, hein, avec les fossoyeurs, François Hollande, Lionel Jospin, qui ont quand même transformé le Parti Socialiste en grand cadavre à la renverse. Hein. C'est pas de moi, ça, c'est de BHL, c'est vous dire. Et puis, Anne Hidalgo, qui avait besoin de se positionner, hein, parce que après le premier président de gauche de la Ve République, si on faisait la première femme président, c'est à peu près d'ailleurs le seul argument. Et puis, de l'autre, il y avait ceux qui ont préféré embrasser le nouveau millénarisme, hein, qui étaient tous à la manif pour le climat, mais alors chacun de son côté. Vous me direz que le mythe de la gauche unie, c'est idiot, puisqu'en 1981, il y avait 6 candidats de gauche. Ça n'a pas empêché François Mitterrand de gagner. Mais c'est vrai que à l'époque, ils se contentaient pas de brasser l'air du moment. En 2021, c'est l'écologie, donc ils sont tous écolos. À l'époque, le programme, c'était de changer la vie.
Et donc, je reviens sur un mot que vous avez employé, fossoyeur, c'est quand même un peu dur, non? Et puis pour ce qui est de changer la vie, 1981 n'a pas forcément respecté toutes ses promesses non plus.
Et en fait, c'est bien le problème. L'histoire de la gauche au XXe siècle, c'est celle des conquêtes sociales, les congés payés, la semaine de 40 heures, puis de 39 heures, la sécu. Parce que c'est la continuité de la Révolution française, pas de liberté sans un minimum d'égalité. Mais en 1983, François Mitterrand choisit d'écouter ce qu'on appelait la deuxième gauche, hein, celle qui trouve qu'il faut s'adapter au marché, qu'il n'y a pas d'autre politique possible. La France a préservé son modèle social, hein, ça c'est sûr, on le voit tous, mais comme elle a accepté la jungle de la mondialisation, eh ben, en fait, elle a payé son modèle social au prix fort, désindustrialisation, chômage de masse. Et quand François Hollande, dans le Parisien de ce matin, joue les héritiers du socialisme, lui qui, en fait, en 1984, expliquait dans un petit livre écrit sous pseudonyme qu'il fallait embrasser le néolibéralisme, bah, franchement, on croit rêver.
Bon, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'en fait, on vit une droitisation de la France depuis 40 ans?
Est-ce que vous avez l'impression que les conquêtes sociales, les Français n'en veulent plus? Est-ce que vous pensez qu'ils acceptent d'enterrer le droit du travail? En fait, droitisation, c'est le mot que certains à gauche mettent sur le ras-le-bol qu'éprouvent les Français à être traités d'extrémistes quand ils demandent la sécurité, une école qui fonctionne, le droit pour la France de décider qui est sur son territoire. Mais il y a 40 ans, on pouvait être de gauche, c'est-à-dire s'opposer à l'exploitation de l'homme par l'homme, et considérer que la sécurité et l'école, ce sont des droits. Entre-temps, hélas, la gauche a préféré abandonner ça, et beaucoup d'autres choses, au Front National, pour faire oublier ses propres reniements. Mais changer la vie, ça reste un horizon. Encore faut-il le vouloir.
Dis donc, Natacha, vous me cherchez un peu avec changer la vie, non? Ça vous dit pas quelque chose, changer la vie?
Non, changer la vie, ouais. Vous devriez écouter l'hymne du programme commun socialiste composé en 1977. C'est absolument extraordinaire.
Eh
musique
bien,
magnifique.
Nous écouterons ce changer la vie là.
Des beaux discours, des grandes têtes.
Natacha Polony. Demain, merci. C'est Philippe Cavrivière qui sera avec vous. Oui, tous les prétextes. Un jour, on passera Natacha de Goldman. Tiens, la semaine prochaine, peut-être.
Avec plaisir.
Je crois que vous l'aimez bien, celle-là.
Elle est très belle.
Merci à vous, Natacha.
Merci.
C'était un professeur, un simple professeur, qui pensait merci. Que savoir était un grand trésor. Tous les moins que rien n'avaient pour s'en sortir que l'école et le droit qu'à chacun de s'instruire. Il y mettait du temps, du talent et du cœur. Ainsi passait sa vie au milieu de nos heures. Et loin des beaux discours, des grandes théories, à sa tâche chaque jour, on pouvait vivre de lui. Il changeait la vie.
RTL Soir avec Thomas Soto.
18h50, Guillemette Franquet, bonsoir.
Bonsoir Thomas.
On vous en parlait dès 8h ce matin dans RTL Matin. Il va bientôt y avoir des jeans made in France et bon marché, dès la fin de l'année, si le groupe Mulier tient sa promesse. Du coup, ça vous a donné envie de nous parler chiffon dans la culture de l'actu.
Et oui, il peut être cigarette slim ou encore boyfriend bleu, parfois noir ou gris, c'est le blue jean.
Blue jeans, white shirt.
Lana Del Rey a même consacré une chanson à un homme en jean. C'est Blue Jeans, un de ses plus grands tubes, repris par la chanteuse française Clara Luciani.
Jean bleu, cuir noir, quand t'es arrivé, j'ai senti mon cœur vibrer. T'étais comme Johnny, junkie, bronzage de LA.
Ça, c'est dans le grand studio RTL en juillet 2018. Alors à sa création en 1873, le jean, c'est d'abord c'est un bleu de travail, quoi. C'est un vêtement de travail.
Oui, c'est celui du mineur, celui du chercheur d'or. Et au cinéma, c'est le cow-boy qui le porte, puis le bad boy. Dans les années 50, Marlon Brando crève l'écran dans L'équipée sauvage. Puis les icônes féminines s'en emparent. Marilyn Monroe, Audrey Hepburn, les stars du rock, Elvis Presley, Johnny Hallyday, chez nous. Car oui, le jean s'impose de l'Amérique à l'Europe. Pendant la guerre froide, le jean devient même le symbole du bloc occidental. La musique Tennessee, enregistrée dans les années 80, Johnny Cash raconte sa vie à la campagne avec sa femme et son chien, le linge suspendu, heureux, en jean. C'est aussi la seconde peau de Jane Birkin. Elle pose en pas de def sur l'album mythique Histoire de Melody Nelson de Serge Gainsbourg. C'était en 1971.
Ça, c'est l'histoire de
Melody Nelson.
Qu'à part moi-même, personne n'a jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça.
À la ville comme au cinéma, les jeunes s'approprient le jean. Les filles laissent tomber de plus en plus la jupe pour enfiler leur denim. Et on se souvient de la copine de Sophie Marceau, Pénélope, dans la Boom 2.
Moi, je me souviens surtout de Sophie Marceau. Ça fait 40 ans.
Je comprends, mais il s'avère que dans la Boom 2, c'est Pénélope qui est tout habillée dans sa baignoire.
Salut.
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 Mais t'es trempée.
Bah, je fais redresser
mon jean. Ça va.
C'est pour nos sexes, ton truc.
Mais le jean, ça devient le symbole de toute une époque. En 1978, Jean-Loup Lafont présente même une émission intitulée Blue Jeans 78. C'était sur Antenne 2.
On s'est délé. Blue Jeans.
Ça m'avait
bonjour
totalement échappé.
Vous étiez pas né.
Si, déjà. J'avais 38 ans.
Ah oui, bien sûr.
Allez-y.
En tout cas, après ces années 70, il y a eu aussi les punks qui se sont appropriés le jean avec leur jean troué. Le slim noir de Kate Moss est devenu un essentiel du dressing des femmes. Bref, à chacun sa version, mais tout le monde en a un. Figurez-vous, Thomas, qu'il se vend 73 jeans chaque seconde dans le monde.
Ah, c'est quand même. Donc, sachant que cette chronique a duré à peu près 3 minutes, combien de jeans ont été vendus depuis le début de cette chronique? Bonne chance. Qui est en jean dans ce studio? Vous êtes en jean?
Et moi, je suis en jean.
Peggy,
je suis en jean.
Je suis en jean.
Et vous?
Et je suis en jean. Donc, tout le monde est en jean. C'est parfait. Ce qui nous emmène à la météo, jean et parapluie ou jean sans parapluie demain?
Non, jean et parapluie, surtout à l'est, parce qu'on aura encore beaucoup de pluie. Des Pyrénées à la façade est, avec des orages dans le sud-est le matin, la Corse également, entre le Grand Est et la région PACA l'après-midi. De la neige à 2000 mètres sur les Alpes, 1200 mètres sur les Pyrénées, et le golfe feu du lion, alors sera à l'écart du mauvais temps, parce qu'il y aura beaucoup de vent, ce vent soutenu d'ailleurs qui va se généraliser sur l'ensemble du pays. Et comme aujourd'hui, c'est sur la moitié ouest en fait que le temps sera plus clément, entre nuages, éclaircies, quelques averses, des averses plus fréquentes voire orageuses dans l'après-midi sur la Bretagne. Les températures, elles vont à nouveau baisser. On sera légèrement en dessous des normales, 14 à Brest, 16 à Agen, 17 à Grenoble, Nancy, Tours, 18 à Paris, 19 à Reims et 20 degrés à Nîmes.
Et alors pour la suite, ça va être un défilé de perturbations, on en a jusqu'à la fin de la semaine.
Exactement, la prochaine, elle va arriver mercredi par le nord-ouest.
Très gentil de votre part pour tous ceux qui misaient sur le week-end de 3 jours.
Ah ouais, mais non. Et c'est vrai que ce ne sera pas un week-end très ensoleillé, un week-end plutôt maussade qui nous attend, mais même si ça ira mieux d'ici la fin de la semaine. En attendant, mercredi, c'est vrai qu'il y a une nouvelle perturbation qui arrive par le nord-ouest. Elle va se renforcer en journée avec de fortes pluies orageuses entre la Bretagne et le Poitou. En allant vers l'est, là, on aura quelques trouées, un temps un petit peu plus sec et même beau entre la Méditerranée et la Corse. Jeudi, cette fameuse perturbation du mercredi, eh ben, elle va s'évacuer par le nord-est et le centre-est. Les pluies seront plus faibles quand même. Et puis, on a une nouvelle perturbation qui va arriver par la façade atlantique. Mais entre les deux, on a ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages, éclaircies. On a parfois de très belles éclaircies et quelques averses encore. Toujours très beau près de la Méditerranée et la Corse. Et puis, la suite, vous l'avez dit, défilé de perturbations, un temps plutôt maussade. Le tout sous des températures qui vont très peu évoluer. On sera juste légèrement en dessous des normales.
Légèrement en dessous des normales. C'est pas terrible, hein, quand même, en dessous
c'est
des normales.
C'est vrai que le printemps pourrait être plus sympa. Au-dessus, je suis bien d'accord. Ça arrivera, vous inquiétez pas.
On vous garde quand même. Merci beaucoup. Dans un instant, ce sera le journal de 19h avec Alexandre de... on est un petit peu en avance, Grégory Cardani. Oh, bah, Romé Goldman. Oh, vous n'auriez pas le petit pull marine d'Isabella Gianni non plus, non?
Et pourquoi?
Je sais pas, c'est Melody Nelson, tout à l'heure ça m'a donné envie.
D'accord. Disque jockey.
J'ai touché le fond de la
qu'il est fort.
Il est fort.
Oh,
il est fort, il est fort, il est fort.
Tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonné.
Il y a un moment. À force d'être en avance, on finit par être à l'heure. Et puis à force d'être à l'heure, on finit par être en retard. Donc là, on va envoyer la pub et on va se retrouver à 19h pour le journal avec Alexandre de Saint-Aignan. A tout de suite.
Thomas Soto, RTL Soir. À suivre dans RTL Soir.
À suivre, le monde tel qu'il est. On s'interrogera sur l'état de notre police. Nos policiers sont-ils en danger alors que demain Jean Castex rendra hommage à Éric Masson, le policier tué à Avignon. On s'interrogera sur les menaces qui pèsent sur nos forces de l'ordre. On regardera également cette curieuse tribune de militaires anonymes cette fois. Qu'en pensent nos débatteurs? Et puis on parlera du 10 mai 81. On l'évoquait avec Robert Badinter tout à l'heure. Que reste-t-il du mitterrandisme s'il en reste quelque chose? Mais pour l'heure, il est 19h.
RTL Soir, Thomas Soto.
Et Alexandre de Saint-Aignan pour le journal. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Après la mort de Michel Fourniret, de nombreuses familles de victimes restent sans réponse.
Oui, notamment la famille d'Estelle Mouzin, dont le corps est toujours introuvable. Le tueur en série est décédé aujourd'hui, il avait 79 ans. Nordal Lelandais, un homme au profil narcissique, borderline, psychopathe, selon les experts à la cour d'assises de Chambéry. Des jeans bientôt made in France, une relocalisation. Et puis la SNCF qui, elle, se délocalise en Espagne pour conquérir des nouveaux marchés.
RTL Soir.
Mais d'abord le retour de Bernard Tapie devant la justice. L'homme d'affaires comparaissait aujourd'hui dans l'affaire de l'arbitrage du Crédit Lyonnais. En octobre dernier, l'audience avait été renvoyée en raison de son état de santé. Bonsoir Julien Fautra.
Bonsoir.
Cet après-midi, lors de son arrivée, Bernard Tapie est apparu combatif.
Oui, à la barre, il se bat, agite les bras, les blessures du cambriolage semblent avoir disparu. Je vous demande d'être très attentive, Madame la Présidente. Je vais vous faire une confidence du pur style Tapie, s'adressant à toute la salle, la faisant parfois sourire, le réalisateur Claude Lelouch et l'avocat Frédéric Thierry en spectateur. Ils se vantent de ses rendez-vous avec le pouvoir, toute la Sarkozy, y compris le président de la République de l'époque. Puis il se retourne vers ses avocats, fier de son show. Un clin d'œil même, après une bonne sortie. Un regard alerte, une énergie et pourtant, on devine un visage fatigué derrière son grand masque bleu. Bernard Tapie fait plusieurs fois référence à son cancer, un problème d'audition aussi. Il demande à ce que le volume des micros soit augmenté. Entendez-vous, monsieur Tapie ? Il lève alors péniblement le pouce. À 78 ans, il est amaigri, s'emporte souvent, aimerait interrompre, hurler, c'est n'importe quoi. Mais seuls quelques chuchotements à peine audibles ne sortent, trahis par sa voix, pourtant si imposante il y a encore quelques mois.
Julien Fautra à la cour d'appel de Paris pour RTL.
La mort, vous le disiez en titre de Michel Fourniret, celui qui était surnommé l'ogre des Ardennes.
Le tueur en série avait 79 ans, décédé aujourd'hui à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Il avait été condamné à perpétuité pour 7 meurtres, 7 jeunes femmes entre 1987 et 2001, mais soupçonné aussi dans plusieurs autres affaires de disparition. Michel Fourniret avait avoué l'an dernier le meurtre d'Estelle Mouzin, commis en 2003. Il ne sera finalement donc jamais jugé pour ces faits. Difficile de tourner la page pour le père d'Estelle Mouzin. Son avocat, maître Didier Seban, dénonce la lenteur de la justice.
Cette mort, c'est surtout une forme de colère devant une institution judiciaire qui a refusé d'enquêter sur la responsabilité de Michel Fourniret dans le meurtre d'Estelle Mouzin pendant des années. La justice française est très profondément en échec sur ces histoires. On ne s'est pas enquêté sur les crimes en série, on ne s'est pas enquêté sur les criminels en série. Il faut que la loi change, c'est le message d'Éric Mouzin. L'essentiel, c'est qu'on puisse donner des réponses aux familles. Monique Olivier, qui a participé à toutes les affaires, Michel Fourniret, est encore en vie et vaillante. Il faut donner des réponses aux familles et donc faut donc accélérer encore l'enquête. Cette mort vient renforcer l'exigence de vérité.
L'avocat du père d'Estelle Mouzin avec Alice Moreno pour RTL. Au procès de Nordal Le Landais, les psychiatres ont présenté leurs conclusions cet après-midi devant la cour d'assises de Chambéry. Anne Lehena, vous avez suivi l'audience sur place pour RTL. Une chose est sûre pour les experts, il n'est pas fou.
Non, il n'a pas de troubles psychiques, il n'est pas schizophrène. Et s'il a parlé d'hallucinations, les médecins ne pensent pas que ce soit pour échapper à la justice, mais plutôt pour fuir une part de lui-même. Car à les écouter, Le Landais a fermé toutes les écoutilles. Il est incapable de relations affectives stables. Il ne parle pas de ses émotions. Jamais. Ces chiens sont pour lui une bouée affective, note une psychologue. Eux lui sont toujours fidèles. Avec des mots assez complexes, les deux psychiatres décrivent un mécanisme de défense comme une forteresse. Pour Le Landais, avancer dans la reconnaissance des faits, ce serait prendre le risque d'un effondrement psychique. En restant fermé, il peut maintenir un certain bien-être. Mais cela empêche tout cheminement. Il ne ressent aucune culpabilité, aucune honte. Il n'a aucun accès au remords. L'avocat de l'accusé s'agace et souligne que ses experts n'ont vu son client que quelques heures il y a 3 ans. Derrière les bras croisés, Le Landais a écouté toute la journée les soignants tenter de percer ses mystères. Il a eu la parole une fois. « Ma passion pour les chiens n'est pas liée à une carence affective. J'aime les animaux depuis que je suis très petit. » C'est tout ce qu'il avait à dire.
Anne Le Hénaff à Chambéry pour RTL. Après 4 jours de traque, le tireur présumé d'Avignon interpellé. Le principal suspect nie les faits. Il est soupçonné d'avoir tué par balle un policier sur un point de deal. L'homme se dirigeait vers l'Espagne avec 2 complices avant d'être repéré au péage de Remoulins.
Et demain, le Premier ministre Jean Castex se rendra à Avignon pour un hommage national. Notez également que Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sera lui demain matin dès 7h40, l'invité d'Alba Ventura sur RTL. Encore une tribune de militaires français. Cette fois, la ministre des Armées dénonce une machination politique.
Un texte anonyme sous forme de pétition publié sur le site de Valeurs Actuelles. Il dénonce notamment le chaos, la violence qui frappe le pays. C'est la 2e tribune signée par des militaires en moins de 3 semaines. La ministre Florence Parly a réagi tout à l'heure.
Cette tribune est anonyme. Donc il est difficile d'engager un débat avec des gens dont on ne sait pas qui ils sont. D'autre part, cette tribune, elle relève, de mon point de vue, d'une grossière machination politique. Vous aurez certainement constaté que cette tribune utilise toute la rhétorique, le vocabulaire, le ton, les références qui sont celles de l'extrême droite. Alors dans quel but ? Certainement le but de diviser. La neutralité de nos armées, c'est ce qui fait que les Français ont confiance dans leurs militaires, qu'ils ont de la considération, et c'est un élément de cohésion nationale, c'est un élément de cohésion pour notre République.
Florence Parly, la ministre des Armées au micro d'RTL. À suivre, le Covid et ses symptômes interminables. 60% des patients hospitalisés, 6 sur 10, souffrent de ce qu'on appelle des Covid longs. Un Covid long, c'est un Covid qui dure parfois au-delà de 6 mois.
RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
19h08, suite du journal avec vous Alexandre de Saint-Aignan. Le Covid est parfois un très très long chemin, notamment pour les patients qui développent une forme grave et une forme de Covid longue durée en quelque sorte.
Oui, l'Inserm vient de dévoiler une étude. 1 millier de malades ont été suivis. Tous avaient été hospitalisés, hein, pas forcément en soins intensifs, mais ils sont passés par l'hôpital. Et résultat, 6 mois après leur contamination, 60% d'entre eux sont toujours affectés par au moins un symptôme. Odile Pouget.
Oui, fatigue
intense et permanente, gêne respiratoire avec essoufflement, douleurs musculaires et articulaires, ce sont les manifestations cliniques dont souffrent le plus ces patients. Mais il y a bien sûr aussi les maux de tête, les pertes de goût et d'odorat. Un quart des malades font d'ailleurs état d'au moins 3 symptômes 6 mois après leur sortie d'hôpital. Et pour cette catégorie, cette persistance est associée à plusieurs facteurs. Le fait d'être une femme d'abord, elles sont plus nombreuses que les hommes à souffrir de ce Covid long. Cette persistance est également plus fréquente chez les patients qui ont fait un séjour en réanimation et chez les patients admis à l'hôpital avec déjà plusieurs symptômes. Il y a donc une corrélation avec la sévérité de la maladie. Autre enseignement de cette étude, parmi les patients qui exerçaient une activité professionnelle au moment de leur infection, un tiers n'a pas réussi à reprendre le travail 6 mois plus tard.
Les précisions d'Odile Pouget pour RTL. Les derniers chiffres de Santé publique France au sujet de l'épidémie. 293 morts dans les dernières 24 heures à l'hôpital.
On en parlait avec humour dans la culture de l'actu il y a quelques minutes. La France va bientôt fabriquer des pantalons, des jeans en fait, hein, des jeans made in France.
Ouais, c'est un vêtement qu'on a tous dans nos placards et qui vient pourtant la plupart du temps de l'autre bout du monde. Eh bien, une usine va bientôt les fabriquer à Neuville-en-Ferrin, près de Lille. Derrière cette relocalisation, c'est le groupe Mulier avec ses enseignes Auchan, Pimki ou Jules. Objectif, vendre des jeans français avec des tarifs compétitifs. Le chef de projet de la future usine, Christian Kinen.
Nous entendons démontrer qu'il est possible de fabriquer en France des produits qui vont être ensuite abordables pour le grand public. C'est-à-dire que l'écart de prix par rapport à nos produits conventionnels fabriqués en Asie sera très faible, de l'ordre de 20%. Dans le plus grand respect de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va avoir recours à des technologies laser, ozone. Notre délavage sera très économe en eau. On a vu par le biais de la crise sanitaire récente que des ateliers d'insertion s'étaient montés autour de la confection de masques. Je pense que dans ces ateliers d'insertion, il y a une partie de collaborateurs qui devraient être nos futurs collaborateurs avec un emploi en CDI dans notre usine.
Des propos recueillis par Franck Hanson pour RTL. Les premiers jeans français de la famille Mulier devraient être disponibles à la vente à partir de l'année prochaine.
En bref, l'actualité se tend toujours plus en Israël avec 9 morts dans des frappes israéliennes perpétrées sur la bande de Gaza aujourd'hui.
Oui, alors qu'Israël commémore aujourd'hui la conquête de la partie arabe de la ville sainte, des violences ont éclaté entre Palestiniens et policiers israéliens faisant plus de 300 blessés. Les tensions se concentrent autour d'un quartier de Jérusalem-Est. La SNCF à la conquête de l'Espagne. L'entreprise ferroviaire française a inauguré ce matin sa première ligne. 5 allers-retours par jour entre Madrid et Barcelone avec ses trains low cost, Ouigo. Le marché du rail espagnol vient de s'ouvrir et les tarifs de la SNCF sont agressifs. À Madrid pour RTL, Diane Cambon.
Sur le quai de la gare d'Atocha, on ne voit que lui, le train de Ouigo aux couleurs bleues et roses. C'est aussi le seul train avec des rames à deux niveaux parmi les TGV en partance de Madrid. Des hôtesses vêtues de l'uniforme français accueillent d'un large sourire les voyageurs à destination de Barcelone. Mario a une place pour le niveau Cielo, le deuxième étage du wagon.
J'ai pris un billet aller-retour et je reviens en fin d'après-midi. J'en ai déjà acheté un autre pour le mois de juillet, mais un peu plus cher, à 15 euros le voyage. Mais franchement, c'est super, je suis très content.
Le prix, c'est véritablement ce qui fait la différence avec la Renfe, l'opérateur de train espagnol. Les billets sont accessibles à partir de 9 euros. Pour un aller simple au lieu des 50 euros en moyenne du train à grande vitesse ibérique.
Ça m'a coûté une vingtaine d'euros aller-retour. C'est bien qu'il y ait de la concurrence. Ça crée des nouveaux postes de travail et fait baisser les prix.
La compagnie française projette de couvrir d'autres lignes sur le territoire espagnol. Madrid, Séville, Malaga, mais aussi Madrid-Valence.
Le reportage de Diane Cambon pour RTL.
Merci Alexandre, on vous retrouve tout à l'heure à 20h. La météo Peggy Broche, c'est pas terrible, ça sera pas terrible demain, mais c'est encore ce que vous pouvez nous proposer de mieux pour la semaine, hein, c'est ça?
Non, mais c'est vrai que la semaine sera agitée et maussable globalement, c'est vrai. Et demain, encore beaucoup de pluie, notamment sur l'est du pays, entre la Corse, la région PACA, l'Alsace. Alors en plus, on a de fortes pluies localement orageuses, notamment dans le sud-est le matin, de fréquentes averses également entre les Pyrénées et le centre, de la neige à 2000 mètres sur les Alpes, 1200 mètres sur les Pyrénées et puis entre la façade atlantique et le nord, un ciel un peu moins chargé et quelques rares averses. Dans l'après-midi, cette zone pluvio-orageuse va se décaler vers l'est, sur toute la moitié est, entre le Grand Est et la région PACA et la Corse. Seul le golfe du Lion restera à l'écart de ce mauvais temps, en fait, puisqu'il y aura beaucoup de vent et ce vent fort qui va se généraliser sur sur l'ensemble du pays. Sur toute la moitié ouest, là, on aura ce qu'on appelle un ciel de traîne entre nuages, éclaircies, quelques averses, des averses qui seront plus fréquentes dans l'après-midi, voire localement orageuses sur la Bretagne, puisqu'on a une nouvelle perturbation qui va arriver par la suite, vous l'avez compris. C'est un défilé de perturbations qui nous attend pour cette semaine. Les températures, les minimales, elles seront comprises entre 7 et 15 degrés, les maximales entre 14 à Brest et 20 à Montpellier comme à Lille, 16 à Lyon et Bordeaux, 18 à Paris. Puis je rappelle qu'il y a toujours 5 départements qui sont actuellement en vigilance orange pluie inondation, l'Ain, le Rhône, la Loire, la Haute-Loire et l'Ardèche.
On ne sait pas trop comment s'habiller en ce moment, ce matin. Le matin, on se dit, tiens, il va faire chaud.
Vous prenez le parapluie, ça c'est indispensable. Et puis oui, un imper si vous en avez un.
Mais au niveau du chaud-froid, ça bouge beaucoup quand même. Hein.
Oh, ça bouge un petit peu, mais bon, on est à peu près sur des valeurs de saison, même si on est légèrement en dessous.
J'avais besoin
vous
de
mettez
me confier,
le t-shirt et le pull.
J'avais besoin de me confier à vous.
Oui, je vois ça, vous avez du mal. Hein. Oui, je vais vous dire comment vous habiller pour demain.
Merci Peggy.
Il y a un an et un siècle.
Aude Vernuccio, comme tous les soirs, on prend la date du jour et on remonte le temps. C'est le droit de suite d'RTL Soir. Nous sommes le 10 mai 2021 et on va commencer par un retour sur le 10 mai 1963 en musique.
Jour de sortie du premier 45 tours des Rolling Stones. Leur tout premier single, oui, Thomas, je vois votre oui, regard.
C'est une bande d'origine, ça, non?
Oui, tout à fait. Common en face A et I Wanna Be Loved en face B. Le disque se vend très mal, mais leur permet de se faire connaître. En avril 64, leur premier 33 tours, lui, est numéro 1 au hit parade.
Ils n'ont pas perdu de temps. On va partir maintenant du côté du 10 mai 1994. Et ce jour-là, l'Afrique du Sud joue vraiment un jour historique. Le mot n'est pas galvaudé.
Nelson Mandela, premier président noir du pays, est intronisé président et prête serment à Pretoria.
Que Dieu m'aide dans ma tâche. Mandela, détenu pendant 27 ans dans les prisons de l'apartheid, a juré de servir cette Afrique du Sud aujourd'hui réhabilitée aux yeux du monde grâce aux élections qui le portent au pouvoir.
Cérémonie publique devant 42 chefs d'État invités qui marquent la fin de l'apartheid et le début de son rêve, une Afrique du Sud arc-en-ciel.
On va remonter le temps encore un peu plus loin, jusqu'au 10 mai 1864. Ce jour-là naît un certain Léon Gaumont.
Passionné de photographie et des travaux des Frères Lumière, il fabrique des appareils de projection dès 1900. Pionnier du cinéma, il fonde Gaumont avec le prénom de sa mère, Marguerite, qui inspire le célèbre logo. Puis en 1910, il ouvre Place de Clichy à Paris, le Gaumont Palace, 3400 places et des films devenus cultes comme Fanny de Marcel Pagnol en 1933.
Tu mets un tiers de curaçao, un tiers de citron, un bon tiers de piquant, un grand tiers d'eau. Voilà. Ça fait 4 tiers. Hein. Et alors ?
Puis période sombre, pendant la Deuxième Guerre mondiale, le cinéma est soumis aux jauges et réquisitionné, comme en 1943, pour des spectacles par l'armée allemande, avec ici Charles Trenet.
La romance de Paris, au coin des rues, de Fleury, que tout le monde en a été pleuri, c'est la romance de Paris.
La salle réouvre au lendemain de la libération de Paris et diffuse dès avril 45, comme une forme de revanche, Le Dictateur avec Charlie Chaplin. Un film qui attire à l'époque 585 000 spectateurs.
Et alors depuis, Aude ?
Alors malgré des affiches attrayantes, la salle souffre des concurrents comme le Rex. Elle ferme définitivement ses portes le 31 mars 1972. Mais Gaumont compte aujourd'hui 78 salles en France, devenant le plus gros réseau de salles en Europe avec Pathé. Ces dernières années, elle produit et finance des films comme ce succès.
Comment vous vivez l'idée d'être un assisté ? Ça vous gêne pas de vivre sur le dos des autres ?
Ça va, merci, et vous ?
Vous pensez que vous seriez quand même capable de travailler ?
Vous en avez de l'humour.
J'aurais tellement merci. Que je suis prêt à vous prendre à l'essai pendant un mois. Je parie que vous ne tiendrez pas deux semaines.
Non, ça c'est des bas de contention. Ça, si je l'aimais pas, je les aimais évanouir.
Moi, je vais pas vous mettre des bas, hein. Même pour vous, vaut mieux vous évanouir. Franchement, à un moment donné, faut... on dit non, on les met pas, on reste là.
Et bonne réponse, Peggy. Intouchable, deuxième plus gros succès au box-office dans l'Hexagone et le film français le plus vu à l'étranger qui détrône Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain.
Merci à vous, Aude. Dans un instant, c'est le monde tel qu'il est, du débat, de la controverse avec ce soir Aude Rossignol, Nicolas Domenac, Antonin André et Éric Brunet. À tout de suite.
Le monde tel qu'il est, c'est dans un instant sur RTL.